Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à FEN & Co, à FEN & Co, la collégiale de la FEN. On en est aujourd'hui au numéro 394 et on va poursuivre notre visite des livres qui sont importants dans le monde de la formation avec un livre qui est vraiment un livre comme on aime, c'est-à-dire un livre qui dit quelque chose et déjà le titre, Ne faites plus d'études. C'est une prise de position. Et donc, quand on saura que les deux auteurs sont Laurent Alexandre et Olivier Babeau, eh bien, dans ces cas-là, on se dit, on les connaît. Olivier était déjà venu pour ceux qui s'en rappellent. Donc, on va pouvoir leur poser des questions. Pourquoi arrêter ça? Et surtout, qu'est-ce que l'IA, puisque c'est ça le sous-titre, qu'est-ce que l'IA permet de faire en formation autrement? Bonjour, Olivier.
Bonjour Stéphane, merci de votre invitation.
Olivier de l'Institut Sapiens, Olivier Babeau. Alors, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as écrit cet ouvrage?
Eh bien, tout est parti d'une conversation avec Laurent Alexandre. On échange beaucoup avec Laurent tous les jours les dernières nouvelles de la tech. On s'échange les articles, les news, les rumeurs aussi. Et tout est parti d'une panique. D'ailleurs, c'est le titre de notre introduction dans le livre Panique. Parce qu'on a décelé qu'il était en train de se passer quelque chose qui n'était à l'époque peut-être encore visible que des initiés, qui est en train de devenir visible de tout le monde et qui va nous exploser à la figure en 2026. C'est-à-dire le décalage absolu entre les besoins d'une économie qui se transforme très profondément au contact de l'intelligence artificielle et d'abord, parce que ce n'est pas seulement des problèmes pour eux, mais d'abord des problèmes pour ceux qui sont formés, pour les plus jeunes, les étudiants qui arrivent sur le marché du travail, et puis, évidemment, par contre-coup, l'ensemble du système d'enseignement supérieur, du système de formation, qui était déjà pas terrible, qui était déjà en décalage, souvent, pour beaucoup de filières, et là, qui va l'être extrêmement gravement. Notre livre, c'est un signal d'alarme, voilà, qu'on tire. En toute franchise, parce qu'on le dit dans le livre, nous, on est du bon côté de l'histoire. Nous, on était du côté où l'intelligence était rare. Une fois que vous aviez les signaux sociaux des diplômes, ça vous donnait une place sociale à vie, en quelque sorte,
Absolument.
une sorte de place au banquet de la prospérité pour les métiers de la tête qui tenaient le haut du pavé. Eh bien, tout ça est en train de s'effondrer. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez beaucoup avant de vous lancer tête baissée dans des études parfois coûteuses, de façon inutile, et parfois aussi inutile. Voilà.
Alors, est-ce que les études, c'est vraiment inutile dans le sens où, bah, aujourd'hui, si tu veux être directeur de quelque chose, il faut avoir un bac plus 5. Si tu
Ouais.
dis, moi, j'ai rien fait.
Bien sûr, évidemment. Alors, naturellement, ce n'est pas un plaidoyer contre l'apprentissage et le savoir. C'est même le contraire, notre livre, hein, c'est apprenez beaucoup plus. Et notre attaque contre les études,
Je
c'est
rappelle que tu es
l'étude. Oui,
professeur
absolument. Je suis
d'université. Non.
professeur d'université, ça fait 25 ans que j'enseigne,
Voilà,
donc c'est toujours
exactement.
avec un grand plaisir, même si je pense, on va en parler, mais que tout ça va devoir beaucoup évoluer, et pour le mieux et dans l'intérêt des étudiants. Mais on pense vraiment que tout ça va se transformer extrêmement rapidement, qu'il va falloir être en réaction à des impératifs économiques, à des besoins du système économique qui vont être complètement différents. Ne faites pas d'études, ça ne veut pas dire n'apprenez pas, c'est ne faites pas d'études au sens classique du terme. C'est-à-dire
D'accord.
parfois 5 années un peu paresseuses où vous allez un petit peu apprendre juste pour avoir vos partiels et puis vous aurez la ligne qui va bien sur le CV qui va vous ouvrir toutes les portes professionnelles. Malheureusement, la ligne ne va plus suffire du tout. Parfois même, elle va être même un bruit inutile. Elle va être aussi un coût d'opportunité, c'est-à-dire que le temps que vous aurez passé à faire des trucs inutiles, vous ne les aurez pas passé à faire des choses plus utiles. Vous n'aurez pas vraiment travaillé, non pas enfin, les compétences pour avoir juste un diplôme qui souvent est quelque chose plutôt une indication statique en quelque sorte, alors que la compétence, elle va être beaucoup plus, elle va bouger. La valeur même du diplôme, sauf si vous faites aujourd'hui parmi les 20 meilleures formations dans le monde ou les meilleures en France, la valeur du diplôme va beaucoup chuter, donc ça sera vraiment quelque chose qui ne vous apportera pas grand-chose. Et puis il va falloir travailler beaucoup plus, c'est-à-dire ne pas se contenter de 5 ans, travailler toute sa vie, se reformer toute sa vie, parce que l'obsolescence des compétences va être extrêmement rapide. On est tous embarqués sur une exponentielle, et donc en fait c'est les conséquences de cette exponentielle qu'on essaye de penser.
Donc, est-ce que finalement l'IA, où on est tout seul avec la machine, ça nous permet d'apprendre?
Alors, c'est une grande question. Il y a deux façons de prendre l'IA, et c'est une étude du MIT, désormais très connue, qui l'a très bien montré. Tu as la façon où l'IA est utilisée comme une prothèse. Elle va remplacer cognitivement, c'est celle où tu vas paresseusement faire copier-coller du résultat. Les études montrent que ton cerveau n'apprend pas, que tu vas oublier très très vite, et même il se crée ce qu'il s'appelle une dette cognitive, un petit peu comme si on avait rêvé notre passage à la salle de sport. On est persuadé qu'on a soulevé de la fonte, mais en fait, il ne s'est rien passé du tout. Donc, nous, on est très contents, on se dit, ah, dis donc, c'est bien quand même, j'ai fait des efforts. Non, pas du tout. Et donc, vous avez le corps, malheureusement, de celui qui a été beaucoup trop sédentaire. Eh bien, c'est ça qui se passe, mais d'un point de vue intellectuel, donc vous finissez par payer ces efforts, ces exercices que vous n'avez pas fait. C'est une sorte de sédentarisation intellectuelle. Il y a une autre façon, heureusement, d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est de l'utiliser, ce que montre aussi l'étude du MIT, c'est que tu peux l'utiliser comme un sparring partner, comme un coach, si tu sais en faire quelque chose qui va t'amener plus loin, t'obliger à continuer à faire des efforts, qui va te challenger, va te poser des questions. D'ailleurs, il y a un mode, hein, étudier et apprendre, hein, sur la plupart des IA, tu auras au moins Gemini et ChatGPT, donc les deux que je connais le mieux. Vous avez un mode étudier et apprendre. Il ne te donne pas la réponse, il va te guider pour obtenir la réponse, il va te guider pour avoir le résultat, mais en réfléchissant toi-même et en faisant l'effort. Typiquement aujourd'hui, hein, tu peux prendre une photo de ton exercice de maths, il peut soit même en répliquant ton écriture faire tout en quelques secondes, ça c'est la version paresseuse, mais hyper tentante, il faut bien le
Bien
dire.
sûr, bien sûr.
Soit il peut te mener en disant, bah tiens, alors on va commencer, tiens, est-ce que tu connais ce théorème-là? Qu'est-ce qu'il dit exactement? Comment on va pouvoir l'appliquer? Tiens, on va commencer à développer cette partie de l'équation. Voilà. Et là, eh ben, il joue le rôle extraordinaire d'un professeur. Donc voilà, il faut comprendre, c'est un outil ambivalent que vous allez pouvoir, comme un couteau qui peut permettre de la faire de la merveilleuse cuisine ou de tuer des gens. Bah, c'est aussi simple que ça. La technologie, elle va être ce qu'on va en faire. Il est très important que les plus jeunes en particulier soient conscients qu'il y a deux usages très différents des technologies. L'usage facile qui remplace et puis l'usage qui élève. Et c'est un des enjeux aujourd'hui sans doute et des enseignements, de l'enseignement, de l'éducation, des institutions de formation, que de sensibiliser, d'apprendre, de guider vers l'usage le plus utile de ces technologies. Parce qu'évidemment, l'idée n'est pas de faire comme si ces technologies n'existaient pas et de vivre unplugged jusqu'à ses 30 ans. Hein.
Donc là, tu as complètement raison, surtout quand on prend la voix. C'est-à-dire quand on rajoute la voix, ça fait beaucoup plus naturel, on entend,
Exactement.
donc on questionne et il y a une vraie empathie numérique, une vraie relation qui se construit avec la machine.
Y a un vrai échange. D'ailleurs, je dis avec Laurent, on dit la même chose. On dit que maintenant, couramment, lui et moi, on parle à notre machine quand on fait de la voiture, quand on est dans des endroits tranquilles. On pose des questions historiques, de sciences, philosophiques. C'est comme un professeur de tout. D'extrêmement, extrêmement bon niveau, il faut le dire, d'extrêmement bon niveau, avec qui vous pouvez parler en permanence, et pour un coût marginal zéro, hein, c'est le coût quasiment d'un abonnement à Netflix, hein, par mois, hein. Coût marginal zéro, l'utilisation
Bien
d'une
sûr,
IA.
hein.
C'est inouï, je veux dire, le
Complètement.
côté donné de l'intelligence aujourd'hui, de ce point de vue-là. Hein.
Mais alors là, on a l'outil, on dit on peut le faire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qu'il faut apprendre? Parce que d'habitude, quand on a un programme, on suit le programme, on a le diplôme, donc tout ça c'est calibré, donc socialement. Et là, on se dit, ben, l'IA, comment est-ce qu'il, je peux tout apprendre. Donc finalement, comment je me
Oui,
conduis?
on peut être pris de vertige, hein, parce qu'effectivement, voilà, j'ai 1 heure devant moi. Est-ce que je fais de l'astronomie? Est-ce que je fais des mathématiques? Est-ce que je fais de la statistique, de l'économie? The sky is the limit. Bon, évidemment, il faut se faire un programme de travail. L'IA peut beaucoup vous aider. Regardez quels sont vos points forts et vos points faibles, vos lacunes, et puis aussi quels sont vos objectifs. Bon, il peut y avoir des objectifs professionnels différents selon les secteurs. Dans un premier temps, dans l'enseignement de base, initial, si vous voulez, hein, ce qui est important, c'est d'acquérir, comme on le dit avec Laurent, beaucoup de culture générale, de recul, de lire des livres, avoir une valeur ajoutée face à la machine aujourd'hui, en particulier
Est-ce qu'on
professionnellement.
a encore besoin de lire, puisque l'IA nous le dit?
Ben, si, si, on pense que moins on lit, quand on lit, on a quelque chose qui se passe dans notre cerveau en termes de concentration, d'approfondissement, de réflexion qui est extrêmement important. Donc, y a cet aspect traditionnel en quelque sorte qu'il faut garder. Le livre papier d'ailleurs est très bien. Les écrans peuvent s'utiliser, mais je trouve que dans le papier, il y a toujours cet aspect statique. Il faut absolument que de l'écran, On n'attend rien d'autre, qu'il n'y ait pas de notification, qu'il n'y ait pas l'idée qu'on va pouvoir aller sur Internet parce que votre cerveau en permanence brise votre concentration et vous dit, tiens, cette page, tu pourrais la mobiliser pour avoir quelque chose de plus fun, pour avoir des vidéos, évidemment, sans aller jusqu'au short. Donc le livre, au moins, bah, tu es sûr que ton livre, il va pas changer, il est fixe et c'est à toi d'être actif face à tes pages et tu n'as pas à attendre que l'écran soit actif pour toi. Donc c'est très important et puis très important de te former cette connaissance transversale des choses, cette connaissance historique, cette culture générale, cette compréhension du monde, sans laquelle, en fait, tu n'as plus de valeur ajoutée face à la machine, c'est-à-dire que tu pourras juste faire copier-coller. Et copier-coller, c'est comme gentil, ça n'est pas un métier. Voilà, c'est
Donc,
sympathique,
le
mais ce n'est
livre
pas un
permet
métier.
aussi peut-être d'avoir une, de construire son univers mental et donc de
Oui.
construire ses histoires. Alors que quand on
Exact.
est face à l'écran, on subit l'histoire des autres.
Mais exact. On subit l'histoire et on devient passif, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sera le réceptacle vide, des vies, des réflexions des autres, mais sans même parvenir à les prendre eux-mêmes, puisqu'on aura un cerveau vide, en fait. Donc évidemment, ça veut dire, enfin, je pense que ça veut dire une attitude très dépressive, passive, parce qu'on est fait justement pour être heureux dans l'action, dans la construction de nous-mêmes. C'est les réflexions que j'avais déjà développées dans la tyrannie du divertissement, hein, et puis aussi l'ère de la flemme, dont on avait parlé ensemble, je crois, sur la crise de l'effort, et puis l'utilisation du temps libre de façon active et non pas dans le divertissement. Bah, aujourd'hui, il y a un nouvel étage de la fusée, c'est-à-dire que quand j'ai écrit la tyrannie du divertissement, ça n'était pas encore là, mais maintenant, depuis 3 ans maintenant, à l'heure où on parle, qu'on a l'intelligence artificielle générative, on a en plus les tâches de la fusée professionnelle en quelque sorte, où on peut déléguer l'effort, le travail intellectuel à la machine en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose, mais en fait, c'est la machine qui l'aura fait. Et encore une fois, il y a une forme de dette qui va se former. On va de plus en plus. Le risque, c'est d'avoir des étudiants qui ont fait semblant d'apprendre, qui ont fait semblant de rendre des rapports faits par ChatGPT, qui ont d'ailleurs ont été corrigés eux-mêmes par ChatGPT, par le professeur. Donc la boucle est bouclée. Et qui sont persuadés qu'ils savent faire des choses. Et je parlais récemment avec des gens qui, par exemple, dans les métiers de la com, qui m'expliquent que les jeunes arrivent, ils sont incapables sans machine de faire quoi que ce soit qui soit au-delà d'un brouillon lamentable. Pour écrire des éléments de langage, des communiqués de presse. Et en fait, d'ores et déjà, on a des gens qui arrivent, ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas capables seuls de faire ces choses qui étaient des choses élémentaires par lesquelles on apprenait le métier. Ils arrivent grâce à la prothèse de l'intelligence artificielle à faire un petit peu quelque chose, mais rapidement, cette prothèse va avoir des limites parce que il faut quand même, pour avoir une valeur ajoutée, il faut avoir une agence, ce qu'on appelle être agentique, comme on dit, c'est-à-dire être capable de choisir soi-même l'angle, d'avoir la capacité à apporter le niveau d'expertise qui manque, par exemple la relation professionnelle, le réseau, le savoir-être, la présentation orale, comme on le fait là, tiens, tout de suite, sans oreillette et sans demander à ChatGPT pour chaque réponse. Et là, le juge de paix est terrible. Parce que soit vous êtes sur une glace très fine, et comme on le voit par exemple, paraît-il aujourd'hui dans le baccalauréat, c'est-à-dire que vous avez travaillé un oral très bien avec votre intelligence artificielle, mais vous avez appris par cœur, donc vous êtes une sorte de perroquet, mais dès qu'on vous pose une question, dès qu'on essaie d'aller plus loin, ça y est, on est sous la glace et hop, on est au fond du lac. Il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. Ça se voit très rapidement. Et donc, soit vous êtes là-dedans et donc assez rapidement, vous n'avez plus de valeur ajoutée, surtout avec le coin socio-fiscal chez nous, au coût d'un salarié, il n'est
Bien
absolument pas
sûr.
intéressant d'avoir quelqu'un et de le payer comme salarié pour ce genre de valeur ajoutée extrêmement faible. Soit, évidemment, vous êtes capable de cette valeur ajoutée et auquel cas, le 21e siècle, pour vous, ce sera beaucoup plus facile et sera jonché de pétales de rose parce que vous allez augmenter en productivité, travailler mieux, concentrer plus de valeur, avoir moins besoin de gens. En fait, vous allez pouvoir travailler de
Alors,
plus en plus
tu as
tout seul
complètement
avec l'IA.
raison, on va revenir sur cette dimension positive, mais l'élément, tous ceux qui critiquent disent finalement on devient paresseux. Et le cerveau va là où c'est le plus facile. Et donc, à force de parler avec un agent numérique, un assistant numérique qui fait mon boulot, est-ce que je
Ouais.
risque pas, à la fin, de donner des ordres à tout va, faire comme Mathieu Crawford le dit, à la fin, mon boulot n'a plus de sens, puisque c'est tout la machine qui le fait. Et donc, à la fin, on crée de la dépression.
Alors, il est possible qu'il y ait des boulots qui disparaissent, hein. D'ailleurs, c'est plutôt les bullshit jobs à la Grébert, des trucs qui ont été multipliés par la tertiarisation de l'économie. C'est pas impossible. On peut aussi souhaiter qu'il y ait des travaux où, grâce à la machine, bah, vous fassiez plus de choses qui aient du sens. Bah, je parlais ce matin avec quelqu'un qui est dans une société, une boîte de de communication corporate, il dit bah, faire des trucs aussi cons que prendre des propositions Word et puis les mettre sur PowerPoint. Autrefois, c'est des trucs qui vous prenaient des jours.
Bien sûr.
On l'a tous fait, ça, hein, d'ailleurs. Hein.
Ouais,
Et
exactement.
quel ennui! Et
Ouais.
là, pour le coup, intellectuellement, c'est comme serrer des écrous, hein, ou
Non,
à
mais c'est
peu
ça.
près, quoi. Vous pouvez apprendre des trucs en devant réécrire un texte
On
différemment. Enfin,
devenait
bon, c'est quand même
expert de
très ennuyeux,
PowerPoint.
beaucoup de copier-coller, pas très intéressant. Donc, l'idée. Et c'est même la même chose pour quand Mercedes explique qu'ils vont mettre des machines dans les usines pour permettre aux ouvriers de plus porter des charges lourdes. Ils vont dire, mais maintenant les ouvriers vont pouvoir faire des choses à plus forte valeur ajoutée. C'est très bien, mais encore faut-il être capable de les faire, ces choses à plus forte valeur ajoutée. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir faire des choses plus intéressantes et moins se charger de trucs qui vous détruisent le corps et l'esprit. Finalement, c'est un peu l'histoire des technologies depuis au moins 200 ans. Hein.
Bien
On
sûr.
progresse pour ne plus faire les trucs qui vous détruisaient autrefois. Avant, il fallait 6 personnes pendant une journée pour moissonner un hectare. Et c'était un boulot qui, à 40 ans, l'agriculture, quand vous étiez penché sur la terre, ça vous brisait. Hein. C'est formidable qu'aujourd'hui tout ça soit mécanisé, que de plus en plus on puisse ne plus avoir ces fameux métiers pénibles dont on parle. Mais derrière, la rançon du succès, c'est que ça va être plus dur. Parce
Mais
qu'un
alors,
métier
comment est-ce
pénible,
qu'on
c'est
fait
aussi un métier
justement?
simple souvent.
Si on reste sur cette dimension-là, les porteurs d'eau ont disparu avec la Samaritaine, donc du jour au lendemain, donc ils dégagent, ils font autre chose, ils se débrouillent. Mais comment est-ce qu'on fait socialement pour pas qu'il y ait une casse? Si par exemple on prend un truck autonome, on voit que sur quand on a aujourd'hui c'est une supervision par la vidéo, donc sur 10 camions qui se dirigent tout seuls, il y en a un pilote, qu'est-ce qu'on fait des 9 autres
Oui,
chauffeurs?
et peut-être qu'un jour tu auras besoin de personne d'ailleurs, mais
Oui, absolument, absolument.
c'est la question la plus importante de ces prochains mois. Hein.
Bien sûr.
C'est la question de la destruction créatrice. Bon, et dans cette question, il y a deux questions. La destruction créatrice schumpeterienne. Donc il dit, lui, Schumpeter avait bien très bien remarqué que la technologie a toujours détruit des emplois, mais en a créé. C'est vrai, mais il y a une question de rythme. C'est pas la même chose d'avoir 25 ans entre le moment où les porteurs d'eau petit à petit disparaissent et le moment où il y a des gestionnaires du réseau d'eau. Le fils du porteur d'eau pouvait être gestionnaire du réseau d'eau. Si 2 mois plus tard, si on dit à un porteur d'eau, écoute, dans 2 mois, il n'y a plus de porteur d'eau, mais il va falloir avoir des compétences de gestionnaire du réseau d'eau, c'est pas exactement la même chose. Donc le rythme est fondamental et c'est un des problèmes dans la destruction créatrice qui a probablement lieu en partie. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent qui n'existaient pas avant. Et puis il y a un autre doute aussi, hein, et là il faut dire qu'il y a toutes les. Dans les experts, on peut faire son marché. Il y a des gens qui vont vous
Bien
dire à
sûr.
peu près tout. Deux, il ne va rien se passer, aucune productivité, c'est un pétard mouillé, il n'y a même pas vraiment d'intelligence artificielle, à la limite. Hein, pour dire à Acemoglou, peut-être même des gens comme Julia, très controversés. Bon. Et puis, il y a des gens qui vont dire, de toute façon, le travail complètement va disparaître dans les 5-10 prochaines années. Et que notre problème, c'est l'UBI, c'est l'Universal Basic Income, le revenu universel. Comment on fait grandir ça petit à petit? Voilà. Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, les débats sont là-dessus. Dans le livre, nous, avec Laurent Alexandre, on se positionne sur une voie médiane où on explique qu'il va y avoir destruction créatrice, pas tout de suite destruction de l'emploi parce que les besoins sont tellement infinis de l'être humain qu'on va trouver d'autres besoins. Et puis il y a des besoins d'ailleurs où il y a encore l'être humain nécessaire, par exemple le spectacle vivant. On voit aujourd'hui combien les concerts sont des moments qui sont extrêmement rentables pour les musiciens et puis extrêmement courus parce que l'événement, le caractère absolument unique de la prestation reste là. Il va y avoir des créations, mais l'enjeu, c'est celui de l'évolution des compétences pour être complémentaires avec les machines ou alors aller dans les interstices, comme le spectacle vivant dont je viens de parler, qui sont protégés des machines durablement.
Oui, mais ça veut dire qu'on ne va pas tous aller dans les interstices, puisqu'en fait, il faut quand même qu'il y ait un mainstream. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des gens? Et ça pose la question des institutions, par exemple. Quand on dit qu'il y a de nouvelles compétences, déjà, on ne les connaît pas bien. Et puis surtout, est-ce que nos institutions de formation, est-ce qu'ils peuvent se révolutionner? Est-ce que l'université doit disparaître forcément?
Alors, c'est effectivement des très bonnes questions. Il est probable, pour être tout à fait réaliste, qu'on n'arrive pas à embarquer tout le monde, que beaucoup de gens vont se laisser aller dans cette ère de la flemme, de la paresse, dans le métavers, dans l'espèce de vie en ligne, un peu branchée comme un mort-vivant, malheureusement, hein, enfin comment dire, de vie par procuration. Voilà. Comme c'est déjà le cas, finalement, beaucoup. C'est quoi, 70% à 80% de notre temps éveillé, c'est déjà sur des écrans, hein. Donc déjà, on vit beaucoup par procuration, on vit beaucoup dans les écrans, on vit beaucoup dans le jeu vidéo. Donc malheureusement, il y aura une partie de ces gens-là. L'enjeu, c'est d'arriver à sauver un maximum de monde dans l'humanité, dans la vraie vie qui deviendra une forme de luxe. D'ailleurs, je crois vraiment de plus en plus, hein. C'était Pompidou qui disait très bien. Il avait une assez bonne vista. Il avait dit, mais finalement, le vrai luxe, ça sera plus tard d'avoir la vie du paysan aisé du XXe siècle. C'est-à-dire de l'air pur, les œufs de mes poules, et de la nature et de l'espace, quoi. Et je pense que c'est
Tout
assez
ce qu'on
bien vu, parce
veut.
que si on réfléchit bien aujourd'hui, c'est quand même ça auquel on aspire, fondamentalement, de l'air pur, de l'espace, de la verdure, les œufs de nos poules. Mais ça sera difficile en réalité. Alors, oui, je pense qu'il faut que l'université se rénove complètement, que l'enseignement supérieur se remette en cause très profondément. C'est plus facile quand vous êtes dans le privé, quand vous avez en plus l'aiguillon de la rentabilité. C'est plus difficile quand vous êtes une très grosse machine et très vieille, datant du XIIe siècle, n'est-ce pas? Une machine comme l'université française qui a très mal digéré la massification, qui a en fait acheté la massification parce que ça lui a permis d'avoir énormément de postes de profs, de fonctionnement, parce qu'elle est beaucoup plus grande qu'avant. Sans toujours accepter le fait qu'il fallait que ça prépare à des vrais débouchés autres que refaire des profs et refaire des chercheurs, ce qui est plutôt l'idée du CNRS à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout les mêmes nombres. Et puis, une université qui a acheté la massification au prix d'une chute énorme du niveau en réalité, hein. C'est-à-dire que on a mis le diplôme au niveau des gens et pas les gens au niveau du diplôme, hein. C'est absolument évident. Et ça avait commencé dans le primaire, puis le secondaire, et puis maintenant, c'est évidemment dans le supérieur avec tous les signaux qui concordent, tous les témoignages qu'on veut, y compris aussi les tests tout à fait objectifs sur la chute absolue du niveau, qui produisent une inflation complètement dingue des diplômes, qui est qu'aujourd'hui, si tu as juste un bac plus 5 d'université, souvent c'est dur.
Bien
On
sûr.
voit se multiplier, les gens, ils ont plusieurs bacs plus 5, j'en ai vu parfois, ils ont jusqu'à 3 bacs plus 5, avant de se lancer, ce qui parfois, on a
Mais
l'impression que les
alors,
gens
justement, dans la pédagogie,
ils n'ont pas envie de s'y mettre, quoi.
dans
Hein.
la pédagogie, si tu dis, tu prends quelqu'un pendant 5 ans, il est à disposition. Avec l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire changer?
Alors, c'est là qu'il y a une bonne nouvelle. Moi, je trouve qu'il y a une
Ah,
très bonne
voilà.
nouvelle. Moi, j'adore faire cours, hein, depuis toujours, mais ayant été beaucoup étudiant aussi, j'ai vu parfois qu'il y avait des moments où il y a des moments de grâce et des moments formidables, mais enfin, il y a aussi beaucoup de moments de temps un petit peu perdus. Au sens où, dans le cours, il y a plusieurs moments. Il y a les moments de transmission descendante. Et je dirais que ces moments de transmission descendante, ils peuvent beaucoup être faits dans une interaction avec la machine, avec un professeur IA qui vous connaîtra, encore une fois, connaîtra vos lacunes, saura comment
D'accord.
vous apprenez, aura déterminé votre chemin d'apprentissage. Je sais pas, je passe une matinée avec une IA bien faite sur le droit des comptes. Je pense au droit, je pensais, parce que je pense que c'est un très bon exemple. Droit des comptes 3, droit constitutionnel. Un cours de droit constit, il faut être très très fort quand vous êtes un professeur pour rendre ça sympathique. D'autant plus que vous êtes beaucoup normalement dans le fait de lire un manuel, parce qu'un cours de droit, ça doit être très structuré. Ça ne peut pas partir dans tous les sens, extrêmement structuré. Et donc les gens dans l'amphi, qui est vide 98% du temps, l'amphi, hein, la plupart du temps, c'est juste un immense endroit vide qu'il faut chauffer, entretenir, etc. Dans les gens dans l'amphi essayent péniblement de recopier. Mais si vous aviez une IA bien faite, vous pourriez avoir un dialogue sur l'IA pour chaque partie, vous donnerez les exemples, vous raconterez, et puis après vérifierez que vous avez retenu. Si vous voulez, en quelque sorte, si vous avez vu ce formidable film qui est Les Sous-doués passent le bac, c'est la machine des sous-doués, mais dans la version intelligente et bien faite.
Très
C'est-à-dire
bien.
que vraiment, vous avez passé la matinée, à la fin, vous savez des choses sur le droit des contrats, sur le droit des
Donc c'est la
familles. Voilà.
sucette.
C'est la sucette, ouais, mais vraiment bien faite, mais le truc bien fait. Et l'après-midi, parce qu'on dit, ah, mais il n'y a plus d'humains, machin. Mais non, pas du tout. À ce moment-là, on fait vraiment de la classe inversée. Vous vous retrouvez avec les autres étudiants, ils ont fait la même chose que vous. Vous arrivez, et le professeur, il est sûr, parce que ça a été vérifié, que vous arrivez, vous connaissez déjà l'essentiel de la Constitution, du droit des familles, du droit des contrats, de la partie que vous voulez discuter. Et là, vous pouvez discuter. Là, vous pouvez mobiliser le savoir-être, la prise de parole, l'échange, la mise en relation avec d'autres savoirs. Et puis, ce professeur, donc c'est le moment où vous allez vraiment travailler avec les autres, c'est une forme vraiment de classe inversée, mais donc vous n'avez probablement pas le même nombre d'heures. C'est différent, c'est un apprentissage. Vous apprenez beaucoup de votre côté, mais aujourd'hui c'est très dur de faire bosser un étudiant en dehors du cours. Il y a une culture française qui fait que, et moi quand j'étais étudiant probablement j'étais le premier coupable, mais enfin qui fait que, en dehors du cours, point de salut. Que le cours, c'est l'alpha et l'oméga de ce qu'il y a à savoir pour l'examen. On ne supporte pas qu'on
Ouais,
nous
c'est ça.
interroge sur le truc qui n'était pas dans le cours. Voilà. Et donc, il faut changer complètement de culture, faire que le cours, ça soit aussi travailler avec son IA dans un cadre qui est déterminé. Et après, vous allez travailler collectivement. Et puis, votre professeur sera de plus en plus une sorte de coach aussi qui va vous suivre. Peut-être d'ailleurs tout au long de votre vie, dans votre parcours d'apprentissage, vous aider, pour que vous ne soyez pas seul face à la machine en quelque sorte, hein, pour qu'il y ait un intermédiaire humain, un peu comme autrefois, comment dire, on appelait ça c'était pas un conseil, c'était un prêtre qui était un accompagnateur de conscience ou quelque chose comme ça. Il y avait un
D'accord.
terme. Enfin voilà, l'idée c'est que
Donc on va expliquer aux universitaires qui vont devenir des prêtres.
Oui, non, alors
Non,
évidemment, il n'y a pas de question religieuse
bien
ni
sûr, non,
morale,
non,
hein,
tout
mais
à
c'est
fait.
plutôt du côté de la santé intellectuelle, je pense qu'on se mettrait. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui sera à la fois psychologue, forcément, s'intéresser à la motivation, parce que il faut avoir envie d'apprendre, et puis apprendre pourquoi aussi, vers quoi vous allez. Donc, s'intéresser à la motivation, à
Et
l'élan,
ça, quand tu parles de
l'apprentissage.
l'envie. Parce que l'envie, c'est social, ça. Donc, quand tu parles de l'envie, est-ce que c'est la machine qui te donne envie? Ou c'est ton professeur? Ou c'est tes camarades? Ou...
Non, déjà, la machine, comme les professeurs et les camarades peuvent dégoûter sans aucun doute,
Oui,
la
bien sûr.
machine peut aider à te donner envie parce que tu vas trouver, je sais pas, moi dans ma discussion, moi j'ai grandi comme vous Stéphane, même si on est très jeune, mais on est quand
Bien
même du
sûr.
monde d'avant, on a grandi dans le monde où quand on avait une question, il y avait le dictionnaire, s'il n'y avait pas la réponse, il y avait le quid, et puis après il fallait aller interroger un professeur ou ses parents. Il n'y avait pas toujours la réponse sur tout, donc finalement on savait que les questions qu'on pouvait se poser, elles étaient relativement limitées. Aujourd'hui, c'est inouï. C'est-à-dire que déjà avec Internet, c'était vrai. Vous pouvez poser toutes les questions du monde et vous avez quand même les réponses les plus
Oui,
autorisées,
mais
les
comme
sources les
disait
meilleures.
dans l'art de choisir, la stratégie des petits pots, plus on a la possibilité de faire, moins on fait. Parce qu'à un moment, il faut bien que l'envie vienne. Et
Oui.
l'envie, ça vient que je vois mon camarade le faire. Je me dis, bah, s'il le fait, moi j'ai envie de le faire par mimétisme. Tous les mécanismes sont bons. Mais ça veut dire que c'est là où le vrai problème, c'est si je peux tout faire, donc je fais rien, qu'est-ce qui me donne l'envie?
Je crois que la démarche d'apprentissage, l'espèce de comment dire, de libido C&D, c'est un truc très personnel. Je ne suis pas sûr que ça soit copié et qu'il est relié à la passion et au plaisir qu'on prend. Moi, j'avais un professeur en Sorbonne qui disait, il faut que vous trouviez ce qui est votre genre de beauté. Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, j'ai découvert l'effort, je le raconte dans mon livre L'ère de la flemme, j'ai découvert l'effort quand j'ai découvert la musique. J'ai découvert la musique à 15-16 ans. J'avais pas touché un instrument avant, et puis je me rendais compte que j'aimais certains types de musique, et je me suis mis à me mettre au piano, au clavecin, à l'orgue, puis après au luth, et j'ai découvert l'effort, la passion d'être 8 heures par jour quand j'étais en vacances, à déchiffrer des trucs, à essayer de comprendre le solfège, alors personne dans ma famille pouvait m'aider, parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour m'aider, il n'y avait pas les super applis qui te permettent de progresser. Donc petit à petit, tu vas aller glaner, et c'est d'autant plus précieux, parce que des pièces, des bouts de savoir, tu vas arriver à dévoiler des choses dans ce qui t'intéresse, et là, c'est extrêmement puissant, et c'est là que tout le monde en fait est capable d'effort. Je crois que l'effort est le fruit de la passion. Quand tu as envie de découvrir quelque chose, tu es capable de lui donner des heures sans te fatiguer, et c'est ça qu'il faut aider les plus jeunes à avoir sans doute, c'est-à-dire découvrir ce plaisir d'apprendre qui est un plaisir qui les grandit.
Oui, mais
Parfois,
alors moi je suis
quand tu es à
complètement
l'école aussi,
d'accord
c'est
avec
très
toi.
dur.
Cette
Oui.
esthétisation, ce plaisir d'apprendre, c'est extraordinaire. Par contre, comme l'avait dit Bourdieu, finalement, quand tu es bien né, bah, tu as une culture. Le clavecin, il y a plein de gens qui disent la musique, c'est de la daube. L'esthétique, la peinture, ça sert à rien, c'est nul. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir le capital culturel pour avoir ce type d'envie. Et donc, cette envie, cette esthétisation dans l'effort.
Alors, je crois que c'était une remarque qui était sans doute plus juste autrefois, mais aujourd'hui, tu n'as plus de problème d'accès. Parce que pendant longtemps, on disait le problème, c'est l'accès. Oh là là, les gens n'ont jamais été au musée, ils n'ont jamais entendu de musique, qui les a fait vibrer? Parce qu'il y a tous les genres de musique. Moi, je parle de musique
Oui, bien
baroque,
sûr,
parce que
bien
c'est ça qui
sûr, bien
m'intéresse,
sûr.
mais musique baroque, c'est entre 1600 et 1750. C'est assez précis. Même si j'écoute de temps en temps d'autres genres de musique, mais très très peu de musique du XXe siècle est populaire. Mais il y a plein de gens qui adorent ça, et il y a plein de choses à découvrir, à faire, à produire dans ces musiques du XXe siècle, j'allais dire contemporaines, mais voilà, du XXe siècle. Mais encore faut-il les avoir entendues. Bah, jusque-là, c'était difficile, il fallait avoir accès, c'était cher, et donc il y avait une différence sociale importante. Aujourd'hui, il faut bien dire que tu as accès à un clic de distance, à tout le savoir du monde, à toutes les productions intellectuelles, artistiques du monde. Tu as accès à tous les tableaux peints classiquement en haute définition sur ton ordinateur. Voilà. La vraie question, c'est de l'accès à l'usage, c'est le clic. Alors, est-ce que tu vas savoir que ça existe? Alors, c'est évidemment pas toujours évident. Il faut que les algorithmes te le recommandent. Il faut que peut-être tu aies une petite, un petit coup de pouce pour te dire, tiens, regarde, il y a ça. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, tout n'intéresse pas, mais de temps en temps, il y a des gens qui auront une découverte en disant, mais oui, voilà, c'est ce genre de musique que je veux faire, par exemple. Ou cette activité physique, ou ce sport. Ou,
Bien
l'un
sûr.
de mes enfants était très dans le foot, et puis tout d'un coup, maintenant, il est dans le ping-pong, et comme un fou, il est en club, il est extrêmement motivé. Bon, voilà, encore fallait-il qu'à un moment donné, il voit des gens jouer au ping-pong. Mais aujourd'hui, c'est
Exactement.
quand même pas très difficile. Donc, le boulot de l'école et l'enseignement de plus en plus, c'est d'ouvrir les chakras, c'est de montrer tout ce qui est possible et d'allumer le feu, voilà, pour parler comme Johnny, voilà,
Très bien, bravo.
d'allumer le, c'est toujours cette fameuse citation qu'on attribue à Montaigne, mais qui est probablement plutôt apocryphe, mais enfin qui dit que éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu, hein, voilà. Et donc,
Absolument.
il faut trouver ce qui allume le feu de l'intérêt. Et aujourd'hui, c'est pas une question d'argent, c'est quand même la bonne nouvelle. Alors, je dis pas que ça fait pas une différence d'avoir des enfants, des parents hyper cultivés qui t'amènent au musée, qui
Bien
t'amènent
sûr.
en voyage. Linguistique et qui te parle philosophie à table, évidemment que ça fait une différence, naturellement que l'environnement social, familial a une différence, mais fait une différence. Mais la bonne nouvelle, c'est que il y a beaucoup plus accès, beaucoup plus facilement, c'est de moins en moins une question d'argent, a fortiori chez nous, dans des pays où on institutionnalise de la gratuité, d'accès en particulier pour les plus modestes à toutes ces ressources culturelles.
Et ce que tu disais très justement aujourd'hui, quand tu es gamer, tu passes des heures et des nuits à jouer. Quand tu regardes Netflix, tu as toutes les séries, tu as toujours des nouvelles, donc c'est hyper intéressant. Est-ce que finalement la génération Netflix se dit pas, c'est plus intéressant de se laisser regarder un film, une histoire qui n'est pas la mienne, plutôt que de se dire, je vais apprendre le clavecin, ce qui est passionnant en soi, mais il faut déjà avoir l'envie et le goût de l'effort.
Oui, je crois que c'est vraiment dommage que beaucoup de gens se laissent aller à ce que j'appelle le divertissement, c'est-à-dire les plaisirs passifs en fait. C'est bien d'avoir regardé une série, mais ça t'a apporté du plaisir très court terme qui va pas te nourrir durablement. Et c'est là dans l'ère de la flemme où j'oppose l'effort qui est la capacité à mettre le plaisir immédiat à distance, à épargner son plaisir pour avoir plus de plaisir augmenté demain, apprendre un instrument, apprendre une langue, s'intéresser à une science particulière dans laquelle on va devenir meilleur, mathématiques, la physique, je sais pas, Einstein, il faisait la physique par passion d'abord, faut s'en souvenir,
Bien
hein.
sûr.
Il travaillait dans les assurances, hein. Non, au brevet, je crois à Berne, quelque chose comme ça, enfin au bureau des brevets. En tout cas.
Au départ,
Au départ,
au
donc il
départ,
n'était pas
c'est
du tout professionnel de ça, mais il faisait ça parce que c'était son
exactement,
truc, parce
exactement,
qu'il
tout à fait.
adorait. Bon, voilà. Et quand vous faites ça, vous êtes actif, vous grandissez, vous trouvez quelque chose qui vous nourrit sur le long terme. Je
Est-ce que
pense
c'est pas
que.
ça le rôle des institutions de formation?
Oui, je
D'exciter
pense
les
que
gens
leur rôle,
et
c'est
collectivement,
justement
voilà.
d'introduire à ça. Moi, je reproche beaucoup, c'est dur, hein, évidemment, pour l'école, parce qu'on lui demande de tout faire, mais je reproche beaucoup à l'école de parfois d'être vécu par les enfants. Les jeunes, comme étant une sorte d'antichambre uniquement de la vie professionnelle. Alors que l'école, c'est le moment extraordinaire, on va pratiquer l'osium en latin ou la scolaire en grec, c'est-à-dire le loisir studieux. C'est-à-dire ce qu'on fait quand on est assez riche dans l'Antiquité pour ne pas travailler, la culture de soi, de son corps et de son esprit, pour. Son plus grand plaisir, en fait, parce que l'Antiquité, contrairement au christianisme, n'a pas de méfiance vis-à-vis du plaisir. Elle a plutôt une approche de gestion raisonnée. Le plaisir, il faut pas qu'il te domine, il faut que tu le cultives, l'épargnes, pour en avoir la meilleure qualité et surtout éviter l'hubris, même si le côté dionysiaque est valorisé à certains moments et qu'il y a cette idée aussi du génie dionysiaque, mais il faut toujours que ce dionysiaque soit équilibré par l'apollinien. Par l'équilibre et l'harmonie. Et il y a cette idée qui est très importante de travailler sur soi et de maîtriser ses désirs, pas parce que le désir est mauvais, mais parce que on veut avoir le plaisir, pardon, mais parce qu'on veut avoir le meilleur plaisir possible. Voilà. Et c'est exactement ce dans quoi il faut élever les gens, à mon avis. Je pense vraiment, et je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne suis pas le seul, mais moi, je suis totalement dégoûté des vidéos, des séries Netflix. Il y a un trop plein en fait. Il y a très peu de choses qui m'intéressent, puis surtout j'ai tellement pas le temps que 1 heure de liberté pour moi c'est un trésor extraordinaire que j'ai pas envie de dilapider dans une série. Voilà. Je dis pas qu'autrefois j'ai pas regardé pas mal de séries que j'étais intéressé de temps en temps. Je trouve une ou deux qui sont bien, mais je pense je regarde moins d'une série par an. Voilà.
Mais c'est tout le charme des gens qui ont déjà une expertise, c'est-à-dire qui travaillent, qui construisent, qui réinventent dans leur domaine d'expertise, parce qu'en fait, ils kiffent. Alors que quelqu'un qui se dit, ben, la marche est trop haute pour moi, ça va être compliqué, ou c'est pas trop mon univers, je vois pas trop ce que ça va m'apporter, finalement, ben, eux, ils restent sur un domaine plutôt passif en disant, j'attends la fin de la journée, quoi.
Et en plus, on n'a jamais vécu dans un monde où on avait autant dans la poche des propositions permanentes et infinies de distractions,
Oui, c'est
choisies
ça,
en plus
absolument.
par l'algorithme pour vous plaire le plus possible, pour être celles qui vont exactement aller dans votre sens. C'est exactement comme si vous étiez Ulysse sur son bateau avec les sirènes, sauf que vous n'êtes pas attaché au mât. Donc tout le monde, beaucoup de gens sautent à l'eau et vont vers les sirènes. C'est très difficile de s'obliger à s'attacher au mât. D'ailleurs, si on se souvient bien, Ulysse a dit avant à ses marins, attachez-moi, attachez-moi, et quoi que je vous dise, ne me libérez pas. Donc même lui s'est
Il se
méfié
fait.
de sa propre capacité de résistance. Il a bien fait d'ailleurs.
Mais est-ce que c'est pas ça, faire société? Se dire, par exemple, on a un destin commun, que ce soit une entreprise, un pays, peu importe, on y va tous ensemble, on se mobilise, et là, on retrouve la dimension humaine, le plaisir de l'épreuve, en disant, je suis pas tout seul à porter l'épreuve, mais on la porte socialement, et donc on a érotisé l'action qui est la nôtre, même si elle est pénible.
Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est intéressant de mobiliser l'idée de société parce que ça conditionne évidemment notre prospérité et notre capacité à résister à des modèles alternatifs et plus violents comme on le voit aujourd'hui. Et ça repose aussi sur quelque chose qui est très difficile aujourd'hui, c'est-à-dire accepter des formes d'inégalité. Pourquoi? Parce que l'effort crée nécessairement une différence entre celui qui a fait un effort et celui qui n'a pas fait d'effort, en particulier sur plusieurs générations, d'où d'ailleurs aussi des questions compliquées d'héritage, de fiscalité. Reconnaître l'effort, magnifier l'effort et l'excellence, c'est forcément accepter plus d'inégalités que dans un monde où on va beaucoup excuser, voire victimiser. Et donc c'est un monde qui, aujourd'hui, dans les standards d'aujourd'hui, paraît un monde plus injuste. Or, c'est pour moi la seule porte de sortie. C'est-à-dire que nous sommes obligés de miser sur l'humain dans l'encouragement à ce qui le fait réellement humain, c'est-à-dire dans une forme d'exigence. Et si on perd l'exigence au nom d'une bienveillance prétendue, en réalité, on creuse notre fosse à tous.
Exactement. Et l'intérêt n'est pas tant la hiérarchie, tous les gens sont différents, que de dire la hiérarchie n'est pas fossilisée. Ce n'est pas toujours les mêmes qui sont en haut. Et si on met une méritocratie, quelle que soit la définition du mérite, par exemple l'effort, dans ces cas-là, effectivement, là, on a un ascenseur social, donc ça prend du sens.
Exactement. L'idée, c'est que la mobilité, parce que vous avez les inégalités sur des photos à un moment donné, mais si ce ne sont pas les mêmes qui dominent, déjà, c'est beaucoup mieux. Et en fait, donc, si vous créez plus de mouvements, c'est mieux. D'ailleurs, regardez les États-Unis qui, comment dire, qui redistribuent énormément moins que nous, évidemment, par rapport
Bien
à nous,
sûr.
ont plus de mobilité sociale. Quasiment 70% des plus riches aux États-Unis sont des self-made man. C'est énorme. Hein. Nous, on est à moins de 50, hein.
Exactement.
En France, donc, on a une société qui est beaucoup plus figée. Par rapport à d'autres, alors que aux États-Unis, finalement, il y a beaucoup plus de mobilité. C'est cette mobilité qu'il faut promouvoir, et donc évidemment, cette égalité des chances, cette capacité de donner une chance à tout le monde, mais justement, donner une chance, non pas en leur disant, de toute façon, ton destin est fait, c'est un système, c'est systémique, tu es enfermé et condamné à résidence, mais on va quand même te donner quelques subsides, des aides, parce que mon pauvre, tu es une victime, ou alors tenir un autre discours et dire oui, il y a des difficultés, oui, tout le monde n'est pas totalement égalité, on essaye d'égaliser, on essaye de créer les structures pour que chacun ait sa chance, c'est pas forcément parfait, et puis il y a la chance d'ailleurs qui joue aussi, la chance
Bien sûr.
brute, si vous voulez, si tu veux, mais il est possible de réussir par son travail. Et ce qui est très décourageant, je parlais avec un jeune aujourd'hui, quelqu'un de très diplômé, il est avec une compagne très diplômée aussi, ils sont deux à très bien gagner leur vie, ils disent, mais on n'a pas les moyens de se loger et de loger une famille aujourd'hui dans une grande ville.
Historique.
Voilà. Alors qu'on a tout fait bien.
Oui, exactement.
Cette jeunesse peut être légitimement désespérée. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'ailleurs, je me souviens, moi,
Et c'est là peut-être
je
où
vais
c'est
avoir
plus haut.
30 ans, j'étais agrégé, normalien, donc fonctionnaire. Je veux louer un appartement, on me demande la caution de mon père.
Ouais,
Alors, j'ai
exactement.
30 ans, j'ai fait toutes les études du monde, et il a fallu que mon père. Enfin, il y a un moment donné, il y a quelque chose d'injuste dans le système. Et ben, c'est la conséquence d'un système qui est beaucoup trop protecteur, qui croit être généreux, mais qui en fait est beaucoup plus cruel justement de cette fausse générosité.
Est-ce que tu dirais, parce qu'on arrive vers la fin, est-ce que tu dirais que finalement en France, avec l'IA, on est en retard? Parce qu'on entend beaucoup le fait de dire on ne produit pas d'IA, même si on a Mistral, Qtile, des choses comme ça. Finalement, c'est on est bah, la France est déclassée, c'est fini, c'est
Alors,
classé.
en retard sur la production, c'est sûr, on est content d'avoir Mistral, mais les capacités de Mistral à être vraiment en concurrence avec des entreprises qui ont plusieurs zéros de capacité en plus d'investissement paraît quand même. Parce que malheureusement, c'est un big business. On peut souhaiter tout le succès du monde, mais le fait est que le fait d'avoir, dès les années 90, loupé tous les tournants, d'avoir eu aussi une politique de très protectrice du consommateur, c'est-à-dire du prix en Europe, et donc d'avoir empêché les concentrations, fait que nous n'avons aujourd'hui plus aucune entreprise parmi les plus grandes 25 du monde, hein, les 25 premières du monde, plus aucune entreprise. Qu'on est des nains par rapport aux géants américains, et que malheureusement,
Alors
nous sommes en
justement,
train de louper aussi sur la robot humanoïde et sur l'IA, les tournants. Ouais.
quand tu dis il faut y aller dans l'IA, est-ce que finalement c'est pas une façon de se vassaliser, a priori aujourd'hui aux États-Unis, quoi?
Bah, sauf qu'on peut difficilement, ce serait une sorte de scénario, comment dire, Amish, ce serait une Amishisation de dire,
Oui.
allez, on va tous se fermer, on va garder la
Ouais.
technologie du début du 20e, mais tout le reste, non, non, c'est pas bon. Assez rapidement, on va être en décalage et on va devenir une sorte de zoo humain pas très agréable, en fait. Malheureusement, ça peut pas être une. Ça peut pas être l'issue pour l'Europe et pour la France en particulier. Il faut qu'on arrête des herbivores dans un monde de carnivores, je crois, comme l'avait assez bien dit
Exactement.
Macron, mais notre naïveté, elle met très longtemps à bouger. Il faut qu'on arrête d'avoir les inconvénients sans les avantages dans l'Europe. On n'a pas les avantages d'un vrai fédéralisme, d'une voix qui porterait très fort, et pourtant, malheureusement, on a perdu une partie de notre souveraineté. Beaucoup de gens peuvent légitimement être un peu amers vis-à-vis d'une Europe qui, quand même, n'a pas tout à fait fourni les promesses de protection, de renforcement qu'on lui avait donné. Il faut continuer, il faut être optimiste, hein. Il faut se dire qu'on peut quand même arriver.
Est-ce que tu dirais que les entreprises, parce qu'elles ont un projet, elles veulent de la performance, finalement, ça peut être le levier de croissance, en disant que dans l'entreprise, si nous, on utilise l'IA, on voit l'acculturation, etc., on monte en
Ouais.
puissance nos collaborateurs, ça fait le levier de transformation de toute la société à partir des entreprises.
Bah, c'est vrai que les entreprises sont en fait très souvent le centre de l'endroit où se font les changements sociaux, où se fait d'ailleurs comment dire, l'harmonie dans la société, et puis les évolutions. Il faut beaucoup reposer sur les entreprises, c'est pourquoi il faudrait d'abord en avoir plus, industrialiser encore plus, leur faire confiance, être beaucoup plus pro-business, alors qu'aujourd'hui on a un système qui est le contraire. Il faut dire que les impôts sur la production, c'est des taxes, c'est des taxes extérieures, mais inverses en fait. Hein. C'est des droits de péage, mais inversés en quelque sorte. Hein. C'est l'inverse des droits de douane, voilà, très exactement. Et donc nous, on fait ça, nous, avec une très très grande constance. On peut, avec les entreprises, si on arrive à attirer les innovations, à transformer après ces innovations vraiment, enfin les inventions en innovations, les innovations en grand business, si on arrive à passer à l'échelle, c'est-à-dire si on arrive aussi à créer un marché du financement, c'est là qu'on voit que tout se tient, parce que si on avait eu des fonds liés à la retraite par capitalisation, des fonds de pension à la française, on aurait de quoi aujourd'hui financer par nos grosses entreprises
Mais
une partie de ce modèle social.
on a déjà de l'épargne. Est-ce que finalement, ce n'est pas une question de gouvernance? Quand on voit la DARPA aux États-Unis, je crois qu'ils sont 120, 130 personnes. Ça fait un. Donc, ce n'est pas une grosse administration, voilà, pour le dire différemment. Et pourtant, ils arrivent à faire des choses magiques. Et nous, on a énormément de fonctionnaires et on n'y arrive pas.
Mais oui, parce qu'aujourd'hui, notre épargne, elle est fléchée avant tout sur l'achat des bons du Trésor français, ou sur des trucs, des programmes comme le logement social, éventuellement à travers le livret A, mais très très peu ou pas assez fléché vers l'économie productive. On devrait beaucoup plus investir dans nos entreprises, dans le private equity, enfin, le côté ou non côté. Il faudrait que tout cet argent d'épargne puisse servir beaucoup plus massivement. Ce serait vrai si on s'endettait moins déjà. Et puis, s'il y avait les véhicules pour que les gens connaissent un peu mieux d'ailleurs la finance et puis s'y investissent plus. Si on avait eu des fonds de pension, si on avait pris il y a 30 ans ou 40 ans, rêvons, la volonté de faire des fonds de pension à la française, aujourd'hui on aurait des fonds extrêmement puissants pour financer l'innovation, le passage à l'échelle, ce qu'on n'a pas toujours malheureusement aujourd'hui. Donc c'est le problème, c'est que dans les politiques économiques, on paye pendant très longtemps les mauvaises décisions. Voilà. Et puis il y a un effet de sentier en fait, hein, qui fait que, bah, on est obligé, on est dépendant de ces décisions, on ne change pas comme ça. Parfois elles sont positives, comme le nucléaire qui nous éclaire là et dont on profite encore aujourd'hui, des bonnes décisions d'autrefois,
Bien
mais
sûr.
les mauvaises décisions d'il y a 30 ans, on en pâtit, 30 ou 40 ans, on en pâtit encore aujourd'hui, comme les 60 ans de retraite et puis les 35 heures, quoi. Deux décisions complètement à contre-courant et qu'on paye aujourd'hui par un surendettement, tout simplement.
Exactement. Et donc, si on sort un peu des institutions classiques, canal historique, dans ces cas-là, est-ce que ce n'est pas le rôle des institutions de formation que d'être des incubateurs de talents? Puisque finalement, l'IA peut aider tout le monde, mais pour le faire, il faut le faire à plusieurs, il faut avoir l'envie, il faut avoir quelqu'un qui nous drive, un professeur inspirant. Quand on te suit finalement et qu'on suit un de tes cours, tu arrives à donner l'envie aux gens, à ce moment-là, l'IA peut faire tous les modes opératoires, mais au départ, il faut que quelqu'un donne l'envie. Et ça c'est aux institutions. C'est
Ouais.
pas ça une des évolutions possibles?
Oui, incubateur de talent, c'est une très belle définition. Je ne sais pas si tu as vu que Palantir a carrément annoncé que l'université, c'était inutile. Elle veut recruter ces jeunes avant, d'ailleurs pour éviter
D'accord.
qu'ils soient wokisés dans tous les sens.
Très bien.
Et donc, elle veut repérer les talents et après les former en interne. Ça prouve bien que ce n'est pas un point de passage obligé. Il y a plein d'autres façons d'imaginer, d'apprendre, d'avoir un parcours où vous allez être en partenariat avec une institution, mais le fait que vous soyez obligé d'aller pendant certaines années faire certains cursus de façon assez stéréotypée, je pense que ça va tendre à disparaître. Alors évidemment, c'est des modèles qui vont énormément favoriser les gens très actifs, autonomes, un peu les gens entrepreneurs d'eux-mêmes en fait, voilà. Et la vérité, c'est que tout le monde n'est pas entrepreneur de soi. Il y a des gens pour qui la liberté, c'est difficile. Il y a des gens qui ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, c'est légitime. Quand on est jeune, on
Bien
peut
sûr,
pendant
bien
longtemps
sûr.
se chercher. Il faut au moins se chercher. Tout le monde n'est pas capable aussi d'y arriver. On aura du mal à embarquer tout le monde dans quelque chose qui est une prise en main de soi. Disons que les gens qui savent faire ça, ils sentiraient déjà dans le système, en fait, hein. C'est d'ailleurs les fameux dropouts de la Silicon Valley. C'est-à-dire que le nec plus ultra, hein, c'est d'être rentré à Harvard, mais surtout pas d'être sorti, c'est-à-dire de s'être cassé assez rapidement parce que vous avez compris que vous perdez votre temps. Harvard ou les grandes universités de la Ivy League. Il y en a quelques-uns chez nous aussi, des dropouts, hein. C'est-à-dire que vous montrez que vous pouvez réussir le concours, être admis, puis après, surtout, vous n'allez pas perdre votre temps à ces trucs-là parce que vous avez bien mieux à faire.
Mais ça veut dire aussi que quand on a des gens dans les entreprises, finalement, c'est cette façon d'apprendre, comme on apprend à lire et à écrire, ben on peut apprendre à être entrepreneur de sa vie, on peut apprendre à gérer le risque, le doute, avec chacun ses degrés, ses facilités naturelles, mais donc c'est être entrepreneur de sa vie, être entrepreneur de ses compétences, etc. C'est quelque chose qui s'apprend, ça peut être un des rôles de l'école.
Oui, sans doute. Et puis cultiver donc son réseau, les savoir-être. Moi, j'ai mis très longtemps à apprendre la grande leçon que je dis à mes étudiants, souvent au premier cours maintenant. Mais j'ai mis très longtemps, j'aurais aimé qu'on me le dise beaucoup plus tôt. Voilà, mon conseil, c'est ça. Ou plutôt mon apprentissage, mon learning, on dirait. Voilà. 70% de votre réussite professionnelle viendra de votre capacité à être apprécié des gens avec qui vous allez travailler. Voilà. 70% de votre vie. À être apprécié des gens avec qui vous allez travailler. Et ça, c'est beaucoup de choses en fait. C'est pas seulement être un bon camarade, c'est être quelqu'un de sérieux, être quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre aussi,
Il
qui est
inspire
aussi capable de
confiance.
collaborer, de confiance, quelqu'un sur qui on peut reposer. Et vraiment, je crois que c'est très vrai. C'est vrai de la part de vos supérieurs, de vos subordonnés, des gens avec qui vous travaillez. Donc voilà. Et ça veut dire aussi cultiver son réseau. Les qualités humaines, elles vont être encore plus importantes au moment où l'intelligence artificielle domine de plus en plus. J'en suis persuadé. Donc c'est ça qu'il faut transmettre.
Absolument. Puisqu'on arrive à la fin. Pour tous ceux qui se disent, j'aimerais bien un peu développer ma curiosité sur les réseaux sociaux, les plateformes LMS, tu leur conseillerais de démarrer par quoi,
Comme contenu,
Ouais.
oh, c'est difficile à dire. Moi, je leur conseillerais déjà d'avoir dans la poche une bonne IA générative, dans les meilleurs modèles, et en plus, ils évoluent en permanence, et d'apprendre à l'utiliser comme un sparring partner, comme Jiminy Cricket et Pinocchio. Lui poser les questions de façon exigeante. Plus vous allez parler de façon exigeante à l'IA, l'IA, elle va se régler sur vous, hein. Et donc, elle vous parlera de façon exigeante aussi, parce qu'elle aura compris le type de choses qui vous intéressent. Donc, faites de cette IA le compagnon de votre apprentissage de la vie, de vos curiosités. Faites attention à ce qu'il ne devienne pas un compagnon sentimental, parce que ça peut être
Ouais.
une pente terrible, comme dans le film Her. Prenez-le comme un partenaire intellectuel. Voilà. Pour les confidences, trouvez quelqu'un en vrai.
Ouais, c'est ça, c'est mieux. Donc on le conseille. Mais justement, l'IA va permettre de faire soit plus de choses dans le même temps, soit en moins de temps faire les mêmes choses et donc de gagner du temps pour rencontrer les personnes qu'on peut aimer.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est plutôt malheureusement le contraire. Quand on regarde le temps, les gens sont plus sédentaires, les jeunes font moins l'amour,
Bien sûr.
voient moins leurs amis en vrai, s'investissent moins dans les associations. Il faut absolument inverser tout ça. Il faut redire aux jeunes aussi, sortez, comme dans le fameux film d'Inox Tag sur il a décidé en un an d'aller monter. C'était un fameux youtubeur dont j'ai découvert
Oui.
l'existence grâce à mes enfants, mais parce qu'évidemment, j'ai pas le temps de regarder ces trucs-là. Mais il a décidé de monter l'Everest en un an et il a fait un documentaire très intéressant où il montre combien. Et il le dit, combien c'est formidable, la vie extérieure est formidable et que ça vaut beaucoup plus que toutes les vidéos du monde. Et donc sortez, vivez des choses. Et c'est ça aussi probablement qu'il faut réapprendre. Le sens de l'autre, le sens du travail sur soi, le sens de l'environnement, du fait d'être dehors. Parce que quand même, on reste des chasseurs-cueilleurs, quoi. On a besoin de marcher dans la forêt, on a besoin de marcher sur la terre, on a besoin de regarder de voir des arbres, on a besoin d'être en contact avec la nature. Moi, je crois vraiment que c'est ces choses-là qui continuent à nous rendre. Et puis d'être avec les autres, évidemment, parce qu'on est des animaux politiques et qu'on ne vit qu'à travers les autres, on ne peut pas être seul. Comme dit un vieux proverbe, je crois, du Maghreb, un voyageur solitaire est un diable. Voilà, on ne peut pas être tout à fait seul, il ne faut pas l'être. Et donc, si l'IA peut vous permettre de voir plus de gens, bah, ça veut dire que vous aurez pris la technologie dans le bon sens, et non pas malheureusement comme un remplacement pour nous faire aller vers un scénario à la Matrix. Voilà.
L'IA pour nous rendre plus humains, tu dirais?
Oui, l'IA peut vous rendre plus humain, mais pour ça, il faut beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'autodiscipline, de la volonté.
Exactement, comme toujours. Donc,
Tout à fait.
merci beaucoup, Olivier Babot. Si on a apprécié tout ce que tu as dit, déjà, premier élément, on peut acheter le livre. Donc,
Oui.
ça, voilà, très bien. Deuxième élément, si on veut te contacter, comment est-ce qu'on fait?
Eh bien, via, c'est facile, soit LinkedIn, parce que normalement j'accepte les gens qui veulent me parler, et
Ouais.
soit Twitter, Olivier Babot, je crois que j'ai même un Instagram maintenant, mais voilà.
Ah, très bien.
J'utilise moins parce que l'image, c'est moins ma culture. Twitter, c'est des phrases, je suis plus une culture du propos, du discours, et donc voilà, je suis joignable très facilement.
Exactement. Merci beaucoup. C'était passionnant, comme toujours, puisqu'on peut le dire,
Ben,
puisqu'il y a
merci,
un antécédent.
mais
En tout
oui.
cas, c'était très bien. J'espère que tout le monde a apprécié. N'hésitez pas à mettre dans des messages personnels, parce que je sais que les gens ont du mal à parler en public souvent. Dans ces cas-là, posez toutes vos questions et c'est avec plaisir qu'on renouvellera. À très bientôt, Olivier Babot de l'Institut Sapiens.
Merci Stéphane.